Chérie, l'invité du vendredi.
Et nous sommes à J-2 maintenant du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Et notre invité aujourd'hui, c'est vous, Paul Bacot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à Lyon. Vous avez notamment écrit récemment les mots de l'élection présidentielle sous la 5ème République. On va faire attention évidemment à ne pas citer de candidats pour ne pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Simplement, Paul Bacot, que vous inspire cette campagne présidentielle de 2022 en quelques mots?
Comme à tout le monde, c'est un sentiment de bizarrerie puisque on a l'impression que les gens ne sont pas mobilisés, il n'y a pas, comment dire, l'ambiance qu'on connaît d'habitude dans les jours qui précèdent un premier tour d'élection présidentielle. C'est donc une atmosphère assez particulière due sans doute à la guerre d'Ukraine, due sans doute au fait que le président en place sortant se représente, due à un certain nombre d'autres événements ou d'autres évolutions plus lentes et plus anciennes. Toujours est-il qu'on est effectivement dans une grande incertitude. Alors c'est pas nouveau que les électeurs se décident assez tardivement, ça fait plusieurs décennies qu'on repère le phénomène, mais il semble que cette année ce soit particulièrement vrai et cela contribue à rendre très imprévisible le résultat du premier tour.
Voilà, puisque selon les enquêtes d'opinion, on dit que 12 millions de personnes étaient encore indécises il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que cette indécision justement et le fait que les gens se décident au dernier moment, ça fausse un petit peu les sondages ou ça les fasse mentir?
Ça les fera mentir, puisque ce sont précisément les sondages qui nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent jusqu'au dernier moment. Donc, si quel que soit le résultat, ça ne changera rien à la réalité de la chose. Au contraire, effectivement, il y a d'une part l'hésitation entre la participation et l'abstention. Et puis, pour ceux qui vont aller voter, il y a une hésitation sur le choix du candidat. Donc, effectivement, il faut s'attendre, j'allais dire, pas à tout, mais il y a plusieurs scénarios possibles, c'est clair.
En tout cas, on dit beaucoup, et on entend beaucoup, surtout que le taux d'abstention pourrait être voisin de celui de la présidentielle en 2002. Donc, des taux de participation très bas et donc des taux d'abstention très élevé. Est-ce que c'est une fatalité, vous diriez, justement, le fait que le taux d'abstention soit très élevé ces dernières années sur les différentes élections, qu'elles soient municipales, départementales, européennes ou présidentielles?
Alors, il y a effectivement une évolution sur la très longue durée depuis plusieurs décennies qui va dans le sens d'une augmentation de l'abstention. Alors, c'est très compliqué à analyser parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et ça rend les prévisions pour la suite, de ce point de vue-là, assez difficiles. Et par exemple, on a une confirmation d'une forte abstention probable chez les plus jeunes. Alors à la fois, c'est un phénomène récurrent, bien connu, c'est toujours les jeunes qui s'abstiennent le plus, ça c'est pas nouveau, les jeunes, les catégories dites populaires, les moins instruits, les moins riches. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas en plus un effet en plus de l'effet d'âge, ce qu'on appelle un effet de génération? Alors si c'est un effet de génération, ça veut dire que cette jeunesse d'aujourd'hui continuera, en vieillissant, à s'abstenir beaucoup, ce qui évidemment aurait des conséquences importantes. Mais là, pour le moment, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir si c'est un phénomène classique de l'abstention des jeunes lié à une conjoncture particulière qui accroît le phénomène.
Qu'est-ce que ça traduit, ça, justement, Paul Bacot? Est-ce que ça traduit, justement, une distance de plus en plus grande entre les hommes politiques et la population, en particulier les jeunes? Est-ce que ça doit induire une remise en question aussi de la part des hommes et des femmes politiques?
Alors, c'est ce que l'on dit, c'est ce que montrent, d'une certaine façon, pas mal d'enquêtes depuis pas mal de temps. Une certaine distance, une certaine perte de confiance, pas seulement dans les hommes et les femmes politiques, mais dans tout ce qu'on pourrait appeler au sens très large et très flou, d'ailleurs, les élites, quoi. Hein. Tous ceux qui, jusqu'ici, jouissaient d'une certaine autorité et dont la parole jouissait d'une certaine autorité semble aujourd'hui concurrencée par notamment une parole complètement débridée et non filtrée qu'on trouve sur les réseaux sociaux.
Ça, les réseaux sociaux, justement, ça a fait beaucoup évoluer la manière justement de faire de la politique et la manière dont les gens regardaient un petit peu la vie politique. On a l'impression en tout cas que la campagne maintenant se joue plutôt sur la forme que sur le fond.
Oui, non, c'est pas vraiment nouveau. De toute manière, depuis le début, il y a un parallélisme, enfin une jonction totale entre l'histoire de la télévision et l'histoire de la présidentielle en France. C'est dans les années 60 que les Français se mettent à la télé, enfin acquièrent progressivement et regardent de plus en plus la télévision. Et c'est dans les années 60 qu'on a les deux premiers scrutins présidentiels au suffrage universel direct. Et depuis, les deux choses sont étroitement liées, et télévision présidentielle, et j'ajoute les sondages, parce que c'est la même histoire, c'est le même calendrier. Et donc, depuis le début, on dit, la présentation du candidat, la façon de parler, la façon de se piller, la façon de se tenir à la télévision, c'est ce qu'on appelle l'américanisation de la vie politique.
Le storytelling, donc, on parle beaucoup de storytelling, entre guillemets, pour parler américain ces dernières années.
Oui, bien sûr. Du coup, il y a une personnalisation du scrutin qui tient à la nature même du scrutin. On élit une personne, il n'y a même pas de suppléant, il n'y a même pas de vice-président. C'est vraiment très, très, très centré sur une personne et pour une fonction dotée de pouvoirs très importants. Très important, à la fois du fait de la Constitution et du fait des habitudes prises, de la pratique institutionnelle, de la pratique politique. Donc forcément, on attache une très grande importance aux personnes et donc à la façon dont elles se présentent, l'éthos, comme on dit, puis la façon de parler, la façon de se présenter, etc. Oui, on recherche la présidentialité, comme on dit, c'est-à-dire l'affichage d'une certaine compétence, d'une certaine expérience, à la fois du dynamisme et du calme. Des choses parfois un peu contradictoires en termes d'attente, d'ailleurs.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Paul Bacot. Merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sciences politiques à Lyon. Et donc, je rappelle également qu'on vote ce dimanche, le premier tour de la présidentielle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.